Nadia Yalakisouki dit l'art de la dissociation.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Alors si jamais vous faites vos courses en cette rentrée littéraire, vous pourrez faire le plein de choses essentielles grâce à un seul roman où il est question de joie, de rêve éveillé, de folie assumée, d'utopie politique et d'échappée merveilleuse. Que des choses qui ne rapportent rien au grand capital. Nadia Yalakisouki dit à l'art de la dissociation, c'est le titre de son roman. Un concept qui n'a rien d'autobiographique, encore que. Née à Bruxelles, entre l'évidence de la philosophie et la passion pour la littérature, la Kisouki dit, Yala pour les intimes, s'y connaît en monde pluriel. Cette spécialiste de la pensée de Bergson et des études post-coloniales, maîtresse de conférences à Paris 8, a un penchant pour l'entêtement et les échappées belles, direction l'imaginaire. Plus qu'un mot, l'imaginaire est un territoire, on le sait, qui terrifie les dirigeants de notre monde. Bienvenue à vous, notre terreur littéraire.
Bonjour, merci Bonjour, de me Yala. Recevoir. Je suis ravie d'être avec vous.
Également. Cette entrée en matière, je l'avoue, est un petit peu énigmatique. On peut simplement dire en ouverture que ce que vous aimez fondamentalement, Yala, c'est raconter des histoires.
J'aime raconter des histoires, j'aime les personnages qui habitent ces histoires, j'aime les énigmes qu'ils portent et j'aime beaucoup l'opacité dans laquelle peuvent nous convoquer justement ces personnages qui ont décidé de vivre leur propre vie, quoi qu'on veuille en faire.
Bon, avant de se raconter tout ça, petit détour par votre boudoir musical.
Thank you.
c'est du très très grand Jeanne Lee. Bon, en plus, il y a Archie Shep hein, derrière. Qu'est-ce qui vous botte dans ce sophisticated lady, Nadia Ayala Kisukidi?
Ah, je suis extrêmement sensible à la voix de Jeanne Lee. J'aime beaucoup les motifs, la manière dont on est entraîné dans peut-être ce qu'on pourrait considérer comme un chaos sonore et tout d'un coup comment toute une espèce de linéarité musicale, mélodique se met en place en étant toujours maltraité. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'écriture, en fait, c'est aussi quelque chose que j'aime, cette tension complète entre l'ordre et le désordre et le moment où on essaie de vous reprendre, de vous mener doucement et tout d'un coup on vous lâche complètement.
Alors, je précise pour les auditeurs, parce qu'ils ne voient pas tout, malheureusement, c'est que vous chantiez quasiment en même temps que Jeanne Lee. Et on comprend, en vous écoutant, on comprend déjà pourquoi vous écrivez. Où l'on se souvient aussi en sol majeur que notre esprit vagabonde grâce à des musiques, évidemment, mais grâce aussi à des films.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss. Sei ein Strom und diese Pfütze, das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins.
On est dans du noir et blanc, pris dans un poème sur l'enfance perdue, pris dans les ailes du désir de Wim Wenders. C'est un film qui vous a embarqué.
Complètement. Je pense que ça a été mon premier grand choc esthétique. Ça n'a pas été simplement la découverte d'un langage, c'est-à-dire que par moments, vous rencontrez des œuvres qui bouleversent votre vie au point qu'elles vous amènent à bifurquer. Et c'est un moment où je me suis mise à véritablement me rendre compte à quel point la vie de l'esprit était importante pour moi, à quel point finalement les idées également étaient centrales. Et je pense que c'est en étant armée de ce film que j'ai commencé à me dire que quelque chose comme la vie philosophique, en fait, pouvait véritablement être l'engagement d'une vie et l'engagement qui serait peut-être celui de la mienne.
Film pris dans le fameux poème de Peter Handke qui dit « Quand l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Tout pour lui avait une âme et toutes les âmes n'en étaient qu'une quand l'enfant était enfant. » Alors allons-y.
T comme théâtre de l'enfance.
Yala Kisukidi, quels sont les éléments, on va dire, marquants de votre petit théâtre de l'enfance?
Ah, il y en a beaucoup, en fait. Bruxelles.
Vous êtes née?
Ouais. J'aime beaucoup Léopold Sédar Senghor. Et quand Léopold Sédar Senghor parle de Joal, il parle de son royaume d'enfance. Et moi, mon royaume d'enfance, ça a vraiment été Bruxelles. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu jusqu'à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, donc vraiment pas très longtemps. Qui était une ville voyageuse. Je l'ai vécu à travers, évidemment, les rêves de mon père, son lien à la République démocratique du Congo, les rêves portés par les militants proches de mon père. Et puis, ça a été une ville d'enfance, donc c'est la ville du sucre par excellence. J'ai mangé énormément de sucre en vivant dans cette ville. Donc c'est vraiment ces souvenirs mêlés de sucre et de lutte politique et de projections, là encore, de rêves et d'utopies venues du continent africain, se reconfigurant sur le sol européen, qui marquent véritablement mon expérience de la ville.
Enfant unique ?
Enfant unique. Ou presque.
C'est-à-dire ?
Ou presque, parce que j'aime bien dire aussi, alors c'est pas du tout, je fanfaronne pas en disant cela, mais quand on vit avec des personnes qui ont dû quitter leur pays, que ce soit souvent de manière forcée ou qui sont en exil ou autre, on est travaillé par plein de récits. Et moi, c'est vrai que j'aime à dire qu'on était trois à la maison, mon père, ma mère et moi, et il y avait surtout une espèce de pas une présence spectrale, mais en tout cas un mot suffisamment consistant pour qu'il puisse nous donner l'intime sensation d'être une véritable présence physique, c'est la République démocratique du Congo. J'ai vécu avec mon père, en fait, qui n'a jamais cessé, durant toute sa vie, de parler de son pays, mais presque 24 heures sur 24.
Alors, il y a dans votre éphéméride, on va dire enfantin et adolescent, il y a plusieurs dates clés. 1990, du haut de vos presque 12 ans, vous écoutez le discours d'un homme après 25 ans de prison.
Amanda ! Amanda ! I Africa ! Aïe, vous ! a prophet, but as a humble servant of you, the people.
Vous avez 13 ans, on est en 1992, année du passage à tabac de Rodney King par quatre policiers blancs à Los Angeles.
Un homme à terre, sans défense, l'acharnement est impitoyable.
La scène est filmée par un vidéaste amateur, George Holliday.
J'ai pris ma caméra et je me suis précipité au balcon. Le temps que j'arrive, ils étaient déjà en train de frapper le mec. À chaque fois qu'il essayait de se relever, il prenait un coup de matraque.
Après des mois d'enquête, les quatre policiers sont jugés à Los Angeles en mars 1992. Les quatre policiers sont acquittés. C'est l'élément déclencheur d'émeutes raciales dans la Cité des Anges.
I just want to say, you know, can we get along?
Vous avez 19 ans, on est en 1997. Exit Mobutu, bonjour Kabila.
Chers compatriotes, en ces jours où les forces démocratiques célèbrent leur victoire sur la dictature, l'avènement de l'AFDL au pouvoir d'État marque la fin d'une période d'irresponsabilité illimitée, de corruption généralisée.
Donc trois dates clés à des âges différents pour vous, Yala Kisukidi, c'est-à-dire que les monts noirs s'invitent très tôt à votre regard.
Ils sont toujours là, je crois, du fait de ce qu'est mon corps, hein, du fait de ce qu'ont été les engagements de mon père, qui était un engagement anti-mobutiste, hein, construit depuis la Belgique, et qui s'est aussi reconfiguré autour de luttes panafricaines, hein, essentiellement de lutte contre l'apartheid. Et je me rappelle parfaitement, mais comme si c'était hier, de tous les reportages sur le passage à tabac, ou également de Rodney King. J'avais écrit énormément de poèmes, je me rappelle, à l'époque. Et c'est vrai que ce qui se passait, en tout cas aux États-Unis, moi je vivais en France à l'époque, à Amiens, dans mon petit collège Arthur Rimbaud, dans les quartiers d'Amiens Nord, et bien, ce qui se passait aux États-Unis et la violence en fait, qui pouvait s'abattre sur les corps noirs, c'était une violence que je vivais complètement dans ma chair.
Alors je vais faire, Yala Kisukidi, un peu appel à votre tête de philosophe. Est-ce qu'on peut faire le lien entre ces sociétés évoquées plus haut qui ont mis en place des politiques de ségrégation pour les États-Unis, d'apartheid pour l'Afrique du Sud, de dictature pour le Congo et même de guerre? Est-ce qu'on peut faire le lien entre ces sociétés et un certain Bergson? Parce qu'on dirait que ce philosophe, dont vous êtes donc spécialiste, fait lui un lien entre la politique et la mort. J'ai vu que dans un article, vous écriviez ceci. « Dans la société naturelle, telle que la conçoit Bergson, se déploient deux rapports à la mort. Le premier, religieux, abolit la représentation de la possibilité de ma propre mort. Le second, social et politique, participe à la formation du consentement meurtrier. »
Je sais pas, j'ai du mal à mobiliser souvent les philosophes pour reprendre en tout cas leur grille de lecture conceptuelle et les appliquer au réel. C'est pas quelque chose que je fais. Par contre, on peut prendre les choses de manière inverse. C'est vrai que j'ai été sensible à la question de la mort, en tout cas chez Bergson, à partir d'un ensemble d'éléments ou d'événements auxquels j'avais été plutôt attentive, que ce soit dans ma vie propre ou dans les grands événements politiques qui ont pu marquer la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Et ce rapport à la mort, l'idée en tout cas que pour toute société, l'étranger est un ennemi virtuel, et ensuite après ça s'actualise, c'est une idée en tout cas qui dans la philosophie bergsonienne, dans sa dernière grande philosophie, qui est une philosophie de l'amour, qui est une philosophie là aussi de la création politique, eh bien c'est une idée qui m'a extrêmement marquée, puisque un des enjeux finalement de la pensée bergsonienne, c'est comment ouvrir des sociétés qui se ferment, c'est-à-dire comment empêcher tous les mécanismes qui font que d'ennemis virtuels, l'étranger devienne effectivement l'ennemi à abattre, c'est-à-dire qu'on consente à son meurtre, pour reprendre une formule qui a été travaillée justement par le philosophe Marc Répond, relisant Camus.
En tout cas, la philosophie n'est pas là pour vous aider à vivre votre réalité, par exemple, d'afro-descendante.
Non, pas du tout. C'est pas une aide, la philosophie. Peut-être ce qu'elle a peut avoir de merveilleux, et c'est pour ça que je chéris vraiment cette discipline. C'est une discipline qui permet de ne pas sombrer, parce qu'elle exige en tout cas toujours de nous que nous soyons capables de résoudre les contradictions dans lesquelles nous sommes pris et parfois dont nous sommes prisonniers.
Alors, en tout cas, peut-être pour les initiés, je conseille à certains auditeurs en sol majeur votre Bergson ou l'humanité créatrice, qui est donc sortie aux éditions CNRS. Mais la question tatillonne, peut-être qu'on la doit à Fabien Ibousi Boulanga, c'est un penseur camerounais que vous chérissez. Sa question à lui, ça pourrait être « Pourquoi faire de la philosophie ?» Puisque, je le cite, « L'histoire de la philosophie est celle de l'exclusion. Elle a rejeté hors de l'humanité tout ce qui n'est pas rationnel ni européen. »
Oui, c'est vrai. Et il y a quelque chose de l'ordre du désir philosophique et de ce qu'on pourrait appeler la colonialité interne à ce désir qui se pose quand on sait, par exemple, que cette discipline a aussi voyagé avec les institutions, peut-être qui se sont reconfigurées. Bon, là, j'ai parlé que du continent africain, mais sur le continent. Et on peut se dire, mais finalement, est-ce que quand on participe à faire de la philosophie, est-ce qu'on ne fait que embarquer avec soi une tradition complètement étrangère et être subjugué finalement par cette tradition quand on est non-européen? Ou alors l'autre question, ça peut être la suivante, mais est-ce que la philosophie elle-même, n'est-elle pas raconter son histoire depuis l'Europe de telle manière qu'elle soit amenée à exclure finalement de son propre récit les autres justement?
Alors,
ça c'est vrai en fait.
De Yala Kisu qui dit.
Il y a une histoire de la philosophie qui s'est composée, écrite au 19e siècle, qui a participé à l'exclusion de parties entières de la pensée produite dans le monde. En fait. Donc que ce soit l'exclusion par exemple de la Chine, plus avant le 19e siècle déjà l'exclusion des Arabes, etc. Donc il y a plusieurs histoires de la philosophie et il est extrêmement important en tout cas de toujours être capable d'historiciser en tout cas la manière dont le discours philosophique se rapporte à lui-même et à son propre récit.
Oui, j'ai presque envie de rajouter, même si je vois bien qu'il y a une question d'horloge là, que dans le collimateur de Boulanga, il y avait autant la philosophie occidentale que la négritude.
Il peut y avoir la négritude, même si Boulanga est un très grand lecteur de Césaire. Il me disait qu'il n'y a vraiment aucune page à jeter chez Césaire. Mais effectivement, sur la négritude, c'est le rapport à la différence et à ce que toutes les idées de différence, même quand elles sont peut-être énoncées de manière généreuse, peuvent quand même avoir de meurtrier en elles. Et c'était cette attention ténue en fait, qui portait Boulanga, je crois, quand il critiquait également la négritude.
Est-ce qu'il serait possible dans ce cheminement de réflexion qu'un certain Nick Cave et son obsession lyrique pour la mort, je crois, se fasse une petite place en sol majeur? Pourquoi lui?
Pourquoi lui? Parce que c'est un artiste que j'ai découvert justement en voyant les Ailes du désir. Et c'est un univers qui était complètement absent de mon monde. Le rock européen, le rock, excusez-moi, je vais employer un terme qui est très dur, mais le rock porté par des blancs, puisque je n'écoutais pas en fait cette musique. Et en fait, ça a été une ouverture à un univers extrêmement habité par la mort, certes, mais une mort qui a parfois un visage grotesque, qui est parfois un peu bouffonne. Et ce jeu-là, avec une espèce de mélancolie capable de rire d'elle-même, c'est ce que j'ai toujours aimé chez cet artiste.
I hear her crying too.
Bienvenue sur RFI, dans le journal intime de Nick Cave. Il est dans le beau drap, hein, je crois, ce garçon. From Her to Eternity. Je vous promets qu'il y aura Myriam Makeba à la fin dans Sol majeur. On va prendre un petit bout de cette éternité, cela dit, pour continuer la route en Sol majeur avec Nadia Yalakisoukidi. Et puis s'installer dans la lettre F. F comme fauteuil et comme fantaisie.
F.
F comme famille d'élection.
C'est vrai qu'il y a F aussi comme famille, tiens, j'y avais pas pensé. Et voilà qu'une philosophe publie au Seuil son premier roman intitulé « La dissociation ». Alors si on jette quelques premiers éléments, on peut dire qu'il y a un peu de métissage. Il y a une jeune fille de petite taille, c'est peut-être une enfant qui a refusé de grandir. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser au personnage de Crabe Tambour. Il y a une grand-mère qui n'a plus toute sa raison. Et plusieurs échappés dans le monde des idées, mais les idées avec un I majuscule. Quel est le point de départ de ce roman, Yala ?
Le point de départ, je pense que c'est une question très très sensible et vécue. C'est qu'est-ce que trouver un refuge ? Qu'est-ce que trouver un lieu où justement la vie n'est pas diminuée ? Et c'est un petit peu la question que se pose la narratrice en essayant d'abord d'échapper au milieu qui est le sien. Elle est élevée par une grand-mère alors que ses parents sont morts. Et à un moment, sa grand-mère, l'esprit de sa grand-mère va commencer à dérailler. Et pour se préserver, pour se protéger, pardon, de sa folie et de ses déraillements, elle va entamer un long voyage. Enfin, c'est un long voyage dans une partie précise de la France où là, elle va rencontrer encore des personnages, souvent en rupture de banc, qui eux aussi sont portés par des rêves, qui se matérialisent ou pas et qui vont justement l'aider à mener cette quête, trouver ce lieu où on ne diminue pas la vie, un refuge, une famille donc.
Mais donner la parole à une personne de petite taille, comme on dit, à une naine, donc, mais qui a des idées, on va dire, immenses, est-ce que c'est signé un roman de la démesure ?
Il y a une certaine, en tout cas dans ce roman, il y a un amour du chaos et du désordre, ça c'est très clair.
Ouais.
Et sur la petite taille, c'est une caractéristique qui en fait est indécidable, parce qu'il y a aussi des éléments dans le roman où on ne sait plus si elle est petite ou si elle est grande. Et une des idées en fait, mais qui est aussi un petit peu loufoque peut-être dans ce roman, c'était d'imaginer justement cet espace de refuge comme un espace en fait où la vision est enfin abolie et où enfin on ne parle pas, sachant que c'est par la vision en fait qu'on commence à cadrer le réel auquel on est confronté, qu'on va tatouer, par exemple, les peaux d'infamie et d'injures, qu'on va considérer justement que les êtres auxquels on est confronté portent tous les stigmates qui font qu'on ne va pas pouvoir leur donner de place dans la société. Et puis, il y avait le langage, parce que c'est par le langage, les mots, que peuvent justement commencer à se déployer toutes les bêtises et toutes les insanités par moments dans lesquelles, finalement, d'autres, dans leur violence, veulent nous enfermer. Et donc, comment on échappe à ça ? Et donc, c'est un peu cette histoire, en fait, de la dissociation.
Alors, justement, vous venez de prononcer le mot « signe particulier ». Cette jeune métisse pratique l'art de la dissociation. Extrait.
Pourtant, durant ces mois printaniers, au milieu des paroles et de la bêtise, je fis à nouveau l'expérience de la dissociation. L'expérience fut cette fois plus intense. Je n'étais plus seulement deux, mais bien plus. J'étais un monde, j'étais plusieurs, j'étais une foule. Je possédais le don du retranchement. Ce don devait me sauver et nourrit la trame de ce récit. Ma tête s'échappait, partait ailleurs. Elle parcourait des montagnes, des paysages glacés, sondait les sous-sols. Elle traversait les océans, les barrières de corail. Je me demandais combien de mondes elle visitait avant de revenir, de se réinstaller dans mon corps. Je n'eus jamais la réponse. Mais un jour, elle ne revint pas bredouille. Durant ces mois printaniers, elle rapporta avec elle des idées violentes et radicales. Elles tendirent mon estomac et me serrèrent la gorge, comme le vent des cimes qui décolle la roche.
Merci à la Kisukidi pour cet extrait de la dissociation, mais encore, comment vous définiriez ce concept ?
Alors moi j'aime bien présenter la dissociation comme un pouvoir magique, non pas d'un super-héros, parce qu'on n'a pas affaire à une super-héroïne, mais d'un être là aussi qui se débat un petit peu avec la vie et le monde dans lequel elle est contrainte de vivre. Et donc la dissociation, c'est cette capacité finalement à se décoller de son corps, à laisser le corps un petit peu vaquer à ses affaires dans ce que j'appelle le monde des surfaces dans le roman.
Quitter le réel.
Quitter le réel de cette manière et finalement à pouvoir enfin envisager tous les voyages qui sont empêchés par le corps pour rencontrer en tout cas tous les compagnons, tous les amis avec lesquels justement on va pouvoir reconfigurer cette famille et pouvoir enfin vivre d'une vie pleine.
Mais c'est une expérience finalement que l'on expérimente tous sans forcément y prêter attention ou sans le développer, l'affiner. C'est, pour le dire simplement, c'est la capacité pour notre esprit de se libérer.
La capacité, oui, pour l'esprit de se libérer, de voyager, de se retrancher, en fait. Et c'est un roman, en fait, sur le pouvoir de l'esprit, avec tout ce que ça peut avoir, peut-être, je suis désolée, il faut bien l'avouer, de désespérant.
Ben moi, je pense que votre roman est porteur d'espoir, parce que justement, à la déception qu'incarne le côté matériel de nos vies, il y a toujours la possibilité de rebondir, parce que c'est un ressort qu'on ne peut maîtriser, finalement, le ressort de l'esprit qui tente justement d'échapper à la matière. Votre héroïne qui vit, on l'a dit rapidement, qui vit un peu l'enfer sur Terre, hein, à cause de sa petite taille, du fait qu'elle est noire aussi, elle est perçue comme un objet de foire, on la traite de pygmée. Mais ça, c'est pas vraiment votre sujet. Elle va fuir la folie donc de cette grand-mère et partir en quête de sa communauté. Mais quelle est sa communauté ? Parce que dans un premier temps, elle est persuadée, et j'aime beaucoup cette idée, que sa communauté ne peut se trouver que du côté de l'université. Parce qu'elle imagine qu'il y a une université des idées qui existe.
Oui, une université où justement l'idée, c'est que dans l'université, c'est le lieu par excellence de la dissociation, où enfin on a quitté les aléas du corps pour se concentrer pleinement sur la vie de l'esprit. Et donc ça, c'est plutôt une boutade, c'est pas du tout une thèse contre l'université.
Ah non,
quand même, mais
c'est un petit tacle aux intellectuels et aux savants.
Peut-être, je sais pas si c'est un tacle immédiat, mais c'est en tout cas un tacle peut-être d'abord à au démantèlement du savoir. C'est vrai que quand on veut avoir une approche plus, elle est peut-être un peu... je sais pas, ancienne hein, du savoir, mais qui vise à essayer de comprendre la totalité du réel, ben là, on est confronté à des bâtiments qui sont à chaque fois spécialisés dans un domaine, le bâtiment de la technique, le bâtiment de la philosophie ou que sais-je encore. Donc ça, elle découvre déjà ce démantèlement du savoir, alors que finalement, elle, ce qu'elle recherche, c'est une approche finalement du monde qui soit totale. Et ensuite, c'est une réflexion sur ce que sont les frontières invisibles, puisqu'il n'y a pas de raison, en fait. Elle peut tout à fait embrasser la cohorte des étudiants et aller s'installer dans une salle. Je crois que les universités sont encore un peu ouvertes et on peut y entrer comme on veut. Et c'était plus une réflexion sur les frontières invisibles qui interroge toujours qu'est-ce qui fait que finalement, même quand un lieu a priori est ouvert, on n'y entre pas parce qu'on ne se sent pas accepté.
Finalement, il y a la Kisuki dit, sa première belle rencontre à votre narratrice, ce sera un individu au regard moqueur.
Je me présente, Luzolo, artiste et théoricien, grand fabricant de thèses et de caoutchouterie, expert en gavage de gosier et de cervelle, maître S. Art, docteur en verbe et savoir, honoris causa de l'université des deux pôles, le Nord et le Sud, délivré par une assemblée de manchots, des empereurs. Je sais, en général, quand je décline mes titres, ça retourne la tête. Je ne te veux pas spécialement de bien, mais je suis plus affable que le diable et sa cour réunie. Je serai ton bon ami. Ma compagnie est agréable, je suis aussi drôle que l'esprit du vin et nettement moins rébarbatif que tous les dieux des sagesses antiques. Enfin, je parle des sagesses qu'on élabore de ce côté-ci du monde. Il y en a d'autres, par là-bas, fines et drôlatiques, qui racontent les histoires de dieux démembrés qui reprennent vie. Bardés de plumes d'autruche, le corps surmonté d'une tête de chien. Ces mythologies-là, elles valent leur pesant d'or. Elles sont trop peu connues, mais elles farcissent l'esprit de vieux archéologues qui se masturbent dans les caves du musée de la primitivité.
Magnifique ce lusolo, donc extrait de la dissociation pour en sol majeur. Et à la qui ce qui dit, cette jeune fille va donc suivre l'inspiration des idées, toujours avec une majuscule, les idées, des idées qu'elle va consigner dans un petit manuel et des idées qu'elle va expérimenter au gré de donc toutes ces rencontres avec des personnages tous plus loufoques les uns que les autres. Lesquels ?
Alors, parmi les personnages loufoques, il y a André et Petit Chat, qui sont des voyageurs immobiles et des voleurs. Il y a aussi une communauté que j'aime beaucoup, c'est la communauté qui se tisse dans un foyer des postes et télécommunications dans le 16e arrondissement à Paris, autour d'un personnage assez énigmatique, le borgne, d'un poète, Hakim. Et puis, la dernière partie du roman se constitue autour d'une communauté aussi qui a été fondée par deux personnages, Jeanne-Marie Mansala et Pierre Lambika, qui viennent du Congo en fait, et qui vont fonder dans les marges de la couronne, de la petite couronne parisienne, une immense utopie politique qui s'appelle l'indépendance. Et au cœur de cette utopie, en fait, c'est un espace justement d'improductivité totale, où on n'est pas en quelque sorte soumis aux impératifs de l'évaluation et du capital. Et donc c'est peut-être cette véritable communauté en fait que recherche la narratrice et dans laquelle elle va, pour un moment, peut-être évoluer.
Comment habiter ce monde qu'est la France ? Est-ce que c'est pas un peu cette question, finalement, qui traverse ce récit ?
Il y a cette dimension-là. Je lisais, alors malheureusement, je ne peux plus vous retrouver la référence exacte, une interview, je crois, dernièrement, de Maryse Condé, qui disait qu'il avait été compliqué pour elle, par moment, d'habiter dans certains pays. Et je crois qu'elle parlait de la manière dont elle avait voyagé sur le continent africain, en se sentant constamment étranger. En tout cas, en ce qui me concerne, je vis en France, je suis française, etc. Donc, c'est un pays avec lequel j'ai une énorme familiarité. Et c'est vrai que le sentiment d'étrangeté, en fait, ou d'être un étranger, est constant. Et c'est vrai que ce sentiment, à la fois de familiarité et d'étrangeté, est extrêmement singulier à penser, à théoriser. Et c'est vrai que les voies romanesques, c'est-à-dire qui permettent d'habiter à la fois des paysages sensibles, des paysages oniriques, permettent en tout cas d'essayer de mieux comprendre et de mieux saisir, en tout cas, ce rapport complexe entre familiarité et étrangeté.
Est-ce que ça veut dire, Yala, que vous avez trouvé davantage votre place dans le roman plutôt que dans la philosophie ?
Non, pas du tout. Ce que j'aime dans le roman, c'est qu'on peut expérimenter des paysages sensibles.
Je vois que votre œil frétille quand même.
On peut s'autoriser des paysages sensibles. Et ce que j'aime dans l'écriture du roman, en fait, c'est que c'est un espace complet d'indétermination. Et on peut écrire sans avoir à rendre raison de rien. Et c'est cette jubilation-là, en fait, que j'ai trouvée dans l'écriture romanesque. Et le langage littéraire n'humilie pas le langage philosophique et inversement, en fait.
Mes pensées, quand je vous lis, je me dis ça véritablement. Pensée est une gymnastique un peu suicidaire, d'une manière générale et peut-être surtout dans notre 21e siècle. Pensée, écrivez-vous, c'est se prendre une châtaigne dans les dents. Est-ce que vous auriez envie de finir édentée, chère Yala Kisukidi ?
Ça, c'est la narratrice dans les grandes pages du manuel.
Oui,
qui
elle vous ressemble par certains traits, j'ai l'impression.
Oh, je sais pas.
Vous avez l'art de la dissociation, je le sens bien.
Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans les passages du manuel, c'est que c'est l'humeur complète, en fait. C'est un manuel où, finalement, on n'apprend rien du tout et qui, objectivement, ne sert à rien. On s'autorise des choses, on s'autorise des expériences et on s'autorise le droit de dire que un ensemble de savoirs et de discours qui nous font violence dans le monde doivent être détruits, doivent être combattus. Mais dans les trois premiers passages, il s'agit à chaque fois de remettre en cause, là aussi, des types de discours. Un discours racialiste au départ, le deuxième discours est un discours qui sature notre pays sur ce que sont les grandes civilisations comparées à ces hordes sauvages qui viennent là encore nous attaquer et ruiner en fait notre sol identitaire. Là,
c'est le un grand notre, remplacement. Hein,
par exemple. Et donc à un moment, on n'est plus dans l'ordre des raisons aussi face à ces discours. Et donc en gros, il y a aussi l'humeur réactive du personnage qui dit clairement, je ne vais pas m'embarquer et commencer à réfuter par A plus B c'est ces discours qui sont déjà des discours de folie en fait, mais je vais vous montrer comment moi j'échappe à cette folie et comment finalement elle ne me contraint pas et comment elle ne m'infecte pas. Le rire permet ça, le fait d'éructer, de se lancer dans un maelstrom verbal permet aussi cela, mais surtout ne pas se laisser gagner par les pseudo-sérieux de ces discours et l'autorité avec laquelle ils se déversent justement dans nos espaces publics.
Donc peut-être un roman bergsonien. Mais ça veut dire aussi que vous en avez fini peut-être avec la sagesse philosophique. Quand vous prenez la plume, c'est « Vive la Révolution ».
Ah, je sais pas, mais je pense qu'il y a de grandes plumes très sages qui sont des plumes révolutionnaires. Il y a de très belles sagesses révolutionnaires. Je pense pas que ce soit un roman bergsonien. C'est pas un roman à thèse, déjà. C'est un roman dans son expression la plus pure, c'est-à-dire qui démontre rien, en fait.
La dissociation, donc, qui paraît au seuil. Cher Yala Kisukidi. Étonnamment, sur une larme de Purcell, je sais qu'il y a une question en sol majeur que vous aimez bien.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Sur un air de Didon et aîné que vous kiffez.
Que je kiffe, effectivement. C'est une question à laquelle je suis très sensible parce qu'elle est au centre de la relation que j'ai pu entretenir avec mon père. Et je peux aussi la relire et l'aimer à travers la relation que j'ai avec ma mère qui me renvoie à des lieux très différents. Et à des histoires d'espérance très différentes. Donc, mon père était... Malheureusement, il est parti. Il est Mukongo, en fait. C'est une partie du peuple qui composait l'ancien royaume du Congo et qui, là, se retrouve en République démocratique du Congo, donc sous la ville de Kinshasa. Et c'est vrai que la question de la terre, des lieux où sont enterrés ceux qui nous précèdent, donc ceux qu'on appelle les ancêtres, a toujours été fondamentale. Et mon père me disait toujours, tu dois savoir d'où tu viens, en fait, parce que tu dois aussi protéger ta mémoire, c'est aussi protéger, en tout cas, cette terre. Et c'est vrai que toute cette histoire de l'ancestralité, en fait, on peut la lire de manière peut-être spirituelle, mais c'est aussi une manière de comprendre comment on fait famille. Et c'est vrai qu'en étant vivant dans la diaspora, en étant loin justement des terres qui m'ont été comptées, en fait, ce savoir-là était fondamental. Et ensuite, si je regarde du côté de ma mère, alors c'est vrai que spontanément, le terme ancêtre, ou l'idée d'ancestralité, on va toujours l'employer pour les mondes africains, mais l'ancestralité, elle vaut aussi, en tout cas, pour les mondes européens qui m'ont traversée. Et là, il y a des histoires avec beaucoup de pointillés, de femmes pauvres venues qui vivaient en Suisse. Alors là, c'est mon oncle qui a refait toute notre généalogie du côté de ma mère. Et qui a découvert là aussi beaucoup d'histoires de filles mères, d'histoires d'enfants abandonnés. Donc il y a aussi toute cette généalogie familiale là. Et du côté toujours de ma mère, il y a aussi toute la généalogie qui vient de l'Italie et la manière dont l'Italie a été quittée dans les années 20 par ma grand-mère, mon arrière-grand-mère pour venir s'installer en France et pour fuir le régime de Mussolini en train de s'installer. Donc moi je suis très sensible à toutes ces histoires. Toutes ces histoires sont des histoires d'itinérance et chacune de ces immigrations, alors là, c'est peut-être ma manière de les réinventer esthétiquement, politiquement, mais toutes ces histoires d'immigration sont des histoires d'entêtement. C'est-à-dire on refuse de vivre dans des lieux qui, là aussi, peuvent nous diminuer ou font que nos vies sont rendues impossibles. Et c'est donc ça, on va migrer, on va voyager.
C'est ça, faire l'expérience de la diaspora.
Moi, j'ai une approche là aussi de la diaspora qui n'est pas liée simplement à des origines natives. Ce n'est pas une revendication d'identité consistant à dire « il y a le Congo vivre en moi » ou que sais-je encore, d'autres parties de l'Europe vivent en moi. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que les récits peut-être qui ont été portés par ceux qui nous précèdent ne s'éteignent pas aussi rapidement qu'on le voudrait, et que les flammes, les étincelles en fait de lumière et d'espoir qui ont configuré leur vie, et bien ça aussi ça se transmet en fait.
Les mots ont évidemment un pouvoir extraordinaire. Il suffit de vous lire. Vous vous définissez, on le disait plus haut en sol majeur, comme afro-descendante, mais pas forcément comme africaine.
Non, parce que je crois que ce serait très bizarre si je me disais africaine, alors que non seulement je suis pas née sur le continent, j'y ai pas grandi, j'y ai pas vécu. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de vivre dans les mouvements, les échappées, et ce que ce rapport, je dirais, pas immédiatement au continent, mais d'abord à la RDC, parce qu'il y a vraiment ce pays en fait qui a été une obsession familiale en fait, et voir comment je peux me rapporter à ce pays en fait, pas sur le mode d'une nostalgie, pas sur le mode là non plus d'une déchirure, parce que je me sens pas déchirée entre deux cultures, ce genre de choses, c'est
ni
un vocabulaire,
ni d'une quête
non plus.
Et donc quoi?
Mais je peux pas, comment dirais-je, nos vies sont configurées par des éléments de sens, et je peux pas abolir avec autant de légèreté le fait que j'ai été construite à travers des récits familiaux qui sont des récits d'émancipation, des récits de libération, qui ont été forgés en tout cas sur les terres congolaises.
Alors j'aimerais refermer votre en sol majeur, Yala, sur la voix de votre géniteur, Albert Kisokidi, grand journaliste, né Congo, partisan farouche de l'identité congolaise, c'est ce qu'on pouvait lire dans la presse au moment de sa disparition en mars dernier. Et vous nous avez ramené un petit trésor familial, c'est-à-dire sa voix. Dites-nous ce qu'il va interpréter avant qu'on l'écoute.
Alors en fait, mon père me chantait beaucoup une berceuse traditionnelle Congo. Et on la chantait beaucoup ensemble. Et donc voilà, c'est cette petite... Pas forcément bien enregistrée, je ne sais pas ce que vous avez comme son.
C'est pas le critère, là.
Ouais.
Albert Kisokidi sur la radio du Monde et dans votre en sol majeur, Yala. Que disent les paroles?
Alors les paroles, c'est une berceuse traditionnelle donc qui raconte l'histoire d'un enfant, en quelque sorte, qui se retrouve finalement auprès du fleuve, etc. Et en fait, mon père est parti du début de cette berceuse traditionnelle. Et les couplets qu'il rajoute à la fin de la chanson, en fait, sont des couplets qu'il a écrits, où justement, il parle de ce qu'a été son amour pour sa culture, Congo. Alors, je ne sais pas si mon père défendait quelque chose comme une identité congolaise. Là aussi, on en a beaucoup parlé, parce que c'est quelqu'un qui était très très attaché à la culture Congo avec un K, et aussi à l'histoire politique des peuples Bakongo, notamment au moment de l'indépendance. Je me rappelle les dernières discussions que j'avais avec lui, c'était autour de Kazavubu et du mouvement de l'Abako, et de la manière dont ce mouvement avait aussi participé à construire l'indépendance du Congo.
Il a été le premier traducteur de l'hymne national congolaise en Kikongo ?
Semblerait-il.
C'est même pas sûr.
Je sais pas, parce qu'il y a tellement de personnes par moment qui se réclament. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Alors là aussi, je suis pas... C'est marrant, mais vous voyez ce qu'on peut faire pour un père. Et ça, c'est vraiment un exemple d'amour filial complet. J'aime pas les hymnes, je n'aime pas les drapeaux, etc. Mais il m'avait demandé, et j'ai jamais dit non à mon père, il m'avait demandé en tout cas de chanter avec lui cette hymne. Et il paraît, c'est ce que m'ont dit mes cousins à Kinshasa, que souvent, quand l'hymne en congolais... était passé à la radio en Kikongo, il semblerait que ce soit cette version-là en fait qui passe.
Merci infiniment Nadia Yalakisoukidi pour cette embellie dans le ciel des idées avec une majuscule. J'espère qu'on aura bien noté ce détail qui n'en est pas un. On va se quitter protégé justement par la voix de celle à qui on doit cette berceuse que Albert Kisoukidi chantait. C'est notre Mama Africa à tous, on va dire, Myriam Makeba.
Merci à vous.
Merci Yala.
Sana milele myani mboka yanika kumuhini kambi nzembele myani mboka lundi la mwana busana o mama na otsetsam de konzari de la mama kambanza kandi tsari o mama na otsetsam de konzari de la mama kambanza kandi tsari mi mwana busana milele myani mboka yanika kumuhini kambi nzembele myani mboka lundi la mwana busana Tsamunde konzari tela mama kambanza kandi tsari o mama na otsetsamunde konzari tela mama kambanza kandi tela mama kambanza kandi tela mama kambanza kandi tela mama kinzimbikini mwana tela mama kinzimbikini mwana busana.
Au générique de cet ensemble majeur, les ailes du désir, Purcell, Nick Cave, quelques utopies politiques et Myriam Makeba. Émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien en direct chaque samedi et chaque dimanche avec le trio Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. Bon, on va rester les lunettes sur le nez pour accueillir demain Diati Diallo. À demain.